Chapitre 13. Valentine.
Des enfants.
Frères et sœurs, ils se sont créés 5 niveaux de protection à travers les réseaux. Ils écrivaient pour des sociétés prêtes à payer pour leur adhésion, ce genre de choses. Ça m'a pris un temps fou pour les localiser.
Qu'est-ce qu'ils cachent ?
Difficile à dire. Leur âge, néanmoins, semble être le point le plus évident. Le garçon a 14 ans, la fille 12.
Lequel des deux est Démosthène ?
La fille.
Excusez-moi, je ne trouve vraiment pas ça drôle, mais je n'arrive pas à m'empêcher de rire. Tout ce temps à nous inquiéter, tout ce temps à essayer de convaincre les Russes de ne pas prendre Démosthène trop au sérieux, à mettre Locke en avant comme preuve que les Américains n'étaient pas tous des va-t-en-guerre insensés. Deux gosses pubescents.
Et leur nom de famille est Wiggin.
Ah ? Coïncidence ?
Le Wiggin est un troisième. Ce sont les deux premiers.
Oh, excellent. Les Russes ne croiront jamais...
Que nous ne contrôlons pas aussi bien Démosthène et Locke que le Wiggin ?
Avons-nous affaire à un complot ? Est-ce que quelqu'un les contrôle ?
Nous n'avons pu détecter aucun contact entre ces deux enfants et un quelconque adulte susceptible de les manœuvrer.
Ça ne veut pas dire que personne n'a été capable d'inventer quelque méthode indétectable. J'ai du mal à croire que deux enfants...
J'ai interrogé le colonel Graff à son arrivée. S'il s'en fie à son expérience, rien de ce que ces enfants ont fait n'est hors de leur portée. Leurs aptitudes sont virtuellement identiques à celles du Wiggin. Seul leur tempérament diffère. Ce qui l'a surpris, cependant, c'est l'orientation des deux personnages. Démosthène est sans aucun doute la fille, mais Graff prétend qu'elle a été refusée à l'école de guerre parce qu'elle était trop pacifique, trop conciliante et, par-dessus tout, trop empathique.
Clairement pas Démosthène.
Et le garçon a une âme de chacal.
N'était-ce pas Locke qu'on a récemment affublé du glorieux titre de « seul esprit vraiment ouvert d'Amérique » ?
Comprendre ce qui se passe vraiment n'a rien de facile. Mais Graff nous a recommandé, et je suis de son avis, de les laisser tranquilles, de ne pas les démasquer, d'éviter pour l'instant de faire le moindre rapport, sinon pour confirmer que Locke et Démosthène n'ont aucune connexion avec l'étranger ou le moindre groupe intérieur, sauf ceux publiquement déclarés sur les réseaux.
En d'autres termes, leur donner une patente de bonne santé.
Je sais que Démosthène peut paraître dangereux, en partie à cause du nombre de ses partisans, mais je trouve significatif que ce soit le plus ambitieux qui ait choisi le personnage modéré. Et ils n'ont rien fait d'autre que parler pour le moment. Ils ont de l'influence, mais aucun pouvoir.
Si j'en crois mon expérience, l'influence est du pouvoir.
Si jamais l'idée leur prend de franchir la ligne rouge, nous pourrons facilement les démasquer.
Ça ne durera pas. Quelques années, tout au plus. Plus nous attendons, plus ils prennent de l'âge et moins la découverte de leur identité sera choquante.
Vous êtes au fait des récents mouvements de troupes russes. Il reste toujours la possibilité que Démosthène ait raison. Auquel cas,
nous ferions mieux de l'avoir de notre côté. Très bien. Nous allons les laisser faire pour le moment. Mais surveillez-les. Et moi, bien sûr, je vais devoir trouver un moyen de convaincre les Russes de garder leur calme.
En dépit de tous ses doutes, Valentine prenait un réel plaisir à incarner Démosthène. Sa chronique était désormais reprise par presque tous les réseaux d'information du pays, et elle s'amusait de voir l'argent s'accumuler sur les comptes de son avocat. De temps à autre, Peter et elle faisaient au nom de Démosthène le don d'une somme soigneusement calculée à une cause ou à un candidat particulier. Suffisamment pour que la donation soit remarquée, mais pas assez pour que l'heureux élu puisse croire qu'on essayait d'acheter son vote. Elle recevait de si nombreux courriers que son réseau d'information avait engagé une secrétaire uniquement pour répondre à sa place à la correspondance ordinaire. Les lettres amusantes, celles qui émanaient de leaders nationaux ou internationaux, parfois hostile, parfois amical, mais qui tentait toujours avec diplomatie de sonder l'esprit de Démosthène, celle-là, elle et Peter se les réservaient avec délectation, à l'idée que des gens aussi puissants écrivait sans le savoir à des enfants. Parfois, cependant, elle avait honte. Père lisait régulièrement Démosthène, jamais Locke. Du moins, il n'en parlait pas s'il le faisait. Au dîner, il les régalait souvent de quelques points éloquents soulevés par Démosthène dans sa chronique du jour. Peter adorait le voir faire ça.
« Tu vois, ça montre à quel point le citoyen lambda est attentif. »
Mais Valentine se sentait humiliée pour Père. « Si jamais il découvre que c'est moi qui ai écrit les papiers dont il nous parle, et que je ne crois même pas la moitié de ce que je raconte, il serait furieux. »
De honte.
Elle faillit avoir des ennuis à l'école le jour où son professeur d'histoire demanda à la classe de rédiger une dissertation mettant en contraste les opinions de Démosthène et Locke telles qu'exprimées dans deux de leurs premiers écrits. Imprudemment, Valentine en fit une analyse brillante. En conséquence de quoi, elle eut toutes les peines du monde à dissuader le principal de faire publier son essai sur le réseau d'information même qui distribuait la chronique de Démosthène. Peter ne le prit pas bien, loin de là.
« Tu écris trop comme lui. On ne peut pas publier ça. Tu deviens incontrôlable. Je devrais tuer Démosthène tout de suite. »
Si cette bévue le mit en rage, Peter continuait à l'effrayer davantage lorsqu'il sombrait dans le silence. Ce qui arriva quand Démosthène fut invité à prendre part au séminaire présidentiel sur l'avenir de l'enseignement, une assemblée éminente destinée à ne rien faire, mais avec splendeur. Valentine pensait que Peter prendrait cela comme une victoire, mais tel ne fut pas le cas.
« Refuse !» lui dit-il.
« Mais pourquoi donc ? Ça ne va rien me demander comme travail. Et ils sont même prêts à organiser toutes les rencontres sur le réseau pour respecter le désir bien connu de Démosthène de rester incognito. Ça ferait de lui une personne respectable et...
« Et tu adores l'idée d'avoir obtenu ça avant moi. »
« Peter !» Ce n'est pas de toi et de moi qu'il s'agit, mais de Démosthène et de Locke. Nous les avons fabriqués, ils ne sont pas réels.
Et puis, cette désignation ne signifie pas qu'il préfère Démosthène à Locke.
Juste que Démosthène a une base de soutien plus large.
Ça ne devrait pas t'étonner. Son engagement fait plaisir à nombre de chauvins russophobes. Ce n'était pas censé marcher ainsi. Locke devait être celui qu'on respectait.
Et c'est le cas. Un respect véritable prend plus longtemps à obtenir qu'un respect officiel. Peter, ne te mets pas en colère contre moi parce que j'ai fait correctement les choses que tu m'as demandé de faire.
Mais la colère de son frère dura des jours. Et dès lors, il la laissa élaborer seule toutes ses chroniques au lieu de lui dire quoi écrire. Sans doute présumait-il que ça exercerait une influence néfaste sur la qualité des papiers de Démosthène, mais personne n'y prit garde, si tel fut le cas. Qu'elle n'aille jamais le supplier de l'aider n'était certainement pas pour rien dans l'amertume de son aîné. Elle était Démosthène depuis trop longtemps à présent pour avoir besoin que quiconque lui dise ce que Démosthène était censé penser. Et à mesure que se développaient ses correspondances avec d'autres citoyens politiquement actifs, elle commença à apprendre des choses, des informations tout simplement indisponibles pour le grand public. Certains des militaires avec lesquels elle communiquait lâchaient des bribes de renseignements sans même s'en rendre compte. Renseignements qu'elle et Peter rassemblèrent pour se construire une image aussi fascinante que terrifiante des activités du pacte de Varsovie. Ils préparaient bel et bien la guerre. Une guerre terrestre impitoyable et sanguinaire. Démosthène n'avait donc pas tort de suspecter le second pacte de ne pas respecter les règles de la Ligue. Et le personnage de Démosthène acquit progressivement une existence propre. Valentine se surprenait parfois à penser comme lui, au terme d'une séance d'écriture, admettant des idées censées n'être que des pauses calculées. Parfois, en lisant les chroniques de Locke, elle se surprenait même à s'agacer de son refus manifeste de voir ce qui était vraiment en train de se passer.
« C'est peut-être impossible d'endosser une identité sans devenir celui qu'on feint d'être ?»
Elle ressassa la question quelques jours, puis rédigea un papier en s'en servant comme prémisse, pour démontrer que les politiciens qui léchaient les bottes des Russes, afin de préserver la paix, finiraient inévitablement par leur être soumis à tout point de vue. C'était un coup subtil porté contre le parti au pouvoir, qui lui valut pas mal de courriers de qualité. Elle cessa aussi de redouter l'idée de devenir, jusqu'à un certain degré, Démosthène.
Il est plus intelligent que Peter et moi ne l'avons jamais imaginé, se disait-elle.
Graff l'attendait à la sortie de l'école, appuyé contre sa voiture. Il était en civil et avait pris du poids, de sorte qu'elle ne le reconnut pas immédiatement. Mais il lui adressa un signe, et elle se souvint de son nom avant même qu'il n'ait eu le temps de se présenter.
« Je n'écrirai pas d'autres lettres, » dit-elle. « Je n'aurais jamais dû écrire la première. »
« Dois-je en conclure que tu n'aimes pas les médailles ?»«
Pas vraiment. »
« Viens faire un tour avec moi, Valentine.
Je n'ai pas le droit de suivre les étrangers. »
Il lui tendit un papier. Un formulaire d'autorisation signé de la main de ses parents.
« Tant pis pour les étrangers, j'imagine. Où est-ce que nous allons ?»«
Voir un jeune soldat en permission à Greensboro. »
Elle monta dans la voiture.
« Ender n'a que 10 ans, » dit-elle. « Je crois me rappeler vous avoir entendu dire... qu'il n'y aurait droit qu'à 12.
Il a sauté quelques échelons.
J'en conclus qu'il s'en sort bien.
Tu le lui demanderas quand tu le verras.
Pourquoi seulement moi? Pourquoi pas la famille tout entière?
Graff soupira.
Ender a une façon bien à lui de voir le monde. Nous avons dû le persuader de te rencontrer. Voir Peter ou tes parents ne l'intéressait pas. La vie à l'école de guerre était intense.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il a perdu la raison?
Bien au contraire. C'est la personne la plus saine que je connaisse. Suffisamment, en tout cas, pour savoir que ses parents ne sont pas particulièrement impatients de rouvrir un livre de sentiments soigneusement fermé il y a 4 ans. Quant à Peter... Nous ne lui avons même pas proposé de le rencontrer, de sorte qu'il n'a pas eu l'occasion de nous dire d'aller nous faire voir.
Ils prirent la route du lac Brant et la quittèrent juste après l'avoir dépassée, pour suivre un chemin tortueux qui montait et descendait jusqu'à aboutir devant un manoir à bardeaux, entièrement blanc, étalé au sommet d'une colline. Elle dominait d'un côté le lac Brant et de l'autre une étendue d'eau privée de 3 hectares.
« Cette demeure a été construite par le propriétaire des parfums Medley, » lui expliqua Graff. « L'AFI l'a acheté au cours d'une liquidation fiscale il y a de cela 20 ans. Ender a insisté pour que votre conversation ne soit pas enregistrée. Je lui en ai donné ma promesse. Histoire de créer un climat de confiance, vous allez tous les deux sortir sur un radeau qu'il a lui-même construit. Mais je préfère t'avertir. » « J'ai bien l'intention de te poser quelques questions après votre conversation. Tu ne seras pas obligé d'y répondre, mais j'espère que tu le feras. »«
Je n'ai pas apporté de maillot de bain. »«
Nous pouvons t'en fournir un. »«
Un modèle sans micro ?»«
Au bout d'un moment, la confiance finit par s'imposer. »« Je connais la véritable identité de Démosthène, par exemple. »
Malgré le frisson de peur qu'elle sentait parcourir son dos, Valentine se garda bien de réagir.
« On m'en a fait part à mon atterrissage. Il y a peut-être 6 personnes dans le monde à être au courant. Sans compter les Russes. Dieu seul sait ce qu'ils savent. Mais Démosthène n'a rien à craindre de nous. Il peut compter sur notre discrétion. Tout comme je compte sur Démosthène pour ne rien dire à Locke de notre petite rencontre d'aujourd'hui. Confiance mutuelle. Chacun de nous se confie des choses. »
Elle n'arrivait pas à déterminer si c'était Démosthène ou Valentine Wiggin qu'ils approuvaient. Dans le premier cas, elle ne leur ferait pas confiance. Dans le second, peut-être y parviendrait-elle. Le fait qu'il veuille lui interdire d'en parler avec Peter laissait suggérer qu'il savait possiblement en quoi celui-ci différait de sa sœur. Elle-même ne comptait plus prendre le risque de s'interroger sur la question.
« Vous avez dit qu'il avait construit un radeau. Depuis combien de temps se trouve-t-il ici ?»«
2 mois. Nous avions l'intention de ne lui accorder que quelques jours. Mais vois-tu, la poursuite de son éducation ne semble guère l'intéresser. »
Et Valentine de rendosser le rôle de thérapie?
Nous ne pouvons pas censurer ta lettre cette fois.
Il va nous falloir prendre le risque. Nous avons vraiment besoin de ton frère. L'humanité est au bord du gouffre. Cette fois, Val avait suffisamment grandi pour prendre la pleine mesure des dangers qui menaçaient le monde. Et elle avait été Démosthène suffisamment longtemps pour ne pas hésiter à faire son devoir.
Où est-il ?
À l'embarcadère.
Où est le maillot de bain ?
Ender ne lui adressa pas le moindre geste de la main lorsqu'elle descendit la colline. Pas plus qu'il ne sourit quand elle monta sur l'embarcadère flottant. Mais elle savait qu'il était content de la voir. Elle le savait à ses yeux qui n'avaient pas un instant quitté son visage.
« Tu es plus grand que dans mes souvenirs, »
dit-elle bêtement.
« Toi aussi ?
Je me rappelais aussi ta beauté.
La mémoire nous joue parfois des tours.
Non ?
Ton visage n'a pas changé.
C'est juste que je ne me rappelle plus ce que beauté signifie.
Viens,
allons faire une sortie sur le lac. » Elle jeta un coup d'œil inquiet au petit radeau.
Évite juste de te tenir debout dessus.
Il embarqua à quatre pattes, sur les doigts et les orteils, à la manière d'une araignée.
C'est la première fois que je construis quelque chose de mes mains. Depuis le temps où nous jouions avec des cubes tous les deux. Des constructions à l'épreuve de Peter.
Elle rit. Quand Ender se trouvait encore à la maison, il prenait plaisir à édifier des choses qui restaient debout, même quand la plupart des points d'appui évidents avaient été enlevés. Peter, pour sa part, aimait retirer un bloc ici et là pour rendre la structure tellement fragile que le moindre choc la ferait s'écrouler. Peter était un imbécile. Mais il leur ouvrait une porte d'entrée sur leur enfance.
« Peter a changé, » dit-elle.
« Ne parlons pas de lui, » coupa Ender.
« Très bien. »
Elle se hissa sur le radeau, pas aussi adroitement que son frère. Il utilisa une pagaie pour les mener lentement au centre du lac privé. Elle fit à voix haute une remarque sur son bronzage et sa musculature.
« Les muscles viennent de l'école de guerre. » Le bronzage de ce lac. Je passe beaucoup de temps sur l'eau. Nager me donne l'impression d'être en apesanteur. C'est une sensation qui me manque. Sans compter que quand je suis ici, sur ce lac, le paysage monte dans toutes les directions. C'est comme vivre dans un bocal.
Ça fait 4 ans que je vis dans un bocal.
Alors on est devenus des étrangers l'un pour l'autre?
N'est-ce pas ce que nous sommes, Valentine?
Non?
Elle tendit la main pour lui toucher la jambe, puis, sans crier gare, lui pinça le genou, là où il avait toujours été le plus chatouilleux. Mais presque simultanément, il lui saisit le poignet d'une étreinte puissante, quand bien même ses mains étaient plus petites que les siennes et ses bras minces et secs. Un instant durant, il lui parut dangereux. Puis, il se détendit.
« Oh oui, » fit-il, « tu n'arrêtais pas de me chatouiller. C'est du passé. »
affirma-t-elle en reprenant sa main.
« Tu veux nager ?»
En guise de réponse, elle bascula par-dessus le bord du radeau. L'eau était claire, propre, sans la moindre trace de chlore. Valentine nagea un moment, puis regagna l'embarcation et s'allongea au soleil. Une guêpe tourna autour d'elle, puis se posa à proximité de sa tête. Elle pouvait sentir sa présence. En temps ordinaire, ça lui aurait fait peur. Mais pas aujourd'hui.
Promène-toi donc sur ce radeau. Profite du soleil autant que moi.
Le radeau se mit alors à tanguer. Elle se retourna pour voir Ender calmement écraser l'insecte sous un de ses doigts.
C'est une espèce méchante, fit-il. Elle te pique sans même attendre d'avoir été insultée.
Il sourit.
J'ai étudié les stratégies préventives. Je suis très fort. Le meilleur soldat qu'ils aient jamais eu. Personne ne m'a jamais battu. Comment pourrait-il en attendre moins de toi? Tu es un Wiggin, quoi que ça puisse signifier. Ça signifie que tu vas changer le monde.
Et elle lui raconta ce qu'elle faisait avec son frère aîné.
Quel âge a Peter? 14 ans? Et il projette déjà de dominer le monde? Il se prend pour Alexandre le Grand.
Et qu'est-ce qui devrait l'en empêcher?
Qu'est-ce qui devrait t'en empêcher?
Nous ne pouvons pas être Alexandre tous les deux. Les deux côtés de la même pièce. Et je suis le métal entre les deux. »
Et, se disant, elle se demanda si c'était bien exact. Elle avait partagé tellement de choses avec Peter ces dernières années qu'elle en était parvenue à le comprendre, quand bien même elle pensait le mépriser. Tandis qu'Ender n'avait été qu'un souvenir jusqu'à ce jour. Un garçon fragile, presque un bébé, qui avait besoin de sa protection. Pas ce petit homme bronzé, au regard froid, qui écrasait des guêpes sous ses doigts.
Peut-être que nous sommes tous les trois identiques. Peut-être qu'on l'a toujours été. Peut-être nous estimions-nous différents les uns des autres uniquement par jalousie.
Le problème avec les pièces, c'est que les deux côtés ne peuvent pas être au-dessus en même temps.
Et en cet instant, tu te crois en dessous.
Ils veulent que je t'encourage à poursuivre tes études. Ce sont des jeux, pas des études. Rien que des jeux, du début à la fin. Sauf qu'ils en changent les règles chaque fois que ça leur chante.
Il leva mollement une main. Tu vois les fils? Tu peux aussi te servir d'eux, uniquement s'ils le veulent bien, s'ils pensent que ce sont eux qui se servent de toi. Non, c'est trop dur. J'en ai assez de jouer. À l'instant précis où je commence à être heureux, où j'ai l'impression de pouvoir gérer les choses, ils enfoncent un autre poignard. Je n'arrête pas d'avoir des cauchemars depuis que je suis arrivé ici. Je rêve que je me trouve en salle de combat, sauf que, au lieu d'être en état d'apesanteur, ils s'amusent à faire varier la gravité. Ils n'arrêtent pas d'en modifier l'orientation, ce qui m'empêche invariablement d'atteindre le mur vers lequel je me suis élancé. Je n'arrive jamais là où je voulais aller, et je les supplie sans cesse de me laisser rejoindre la porte, et ils refusent de me laisser sortir. Ils n'arrêtent pas de me tirer en arrière.
Valentine supposa que la colère qu'elle percevait dans sa voix lui était destinée.
« Je suppose que c'est la raison de ma présence ici, pour te tirer en arrière. Je ne voulais pas te voir. On me l'a dit.
J'avais peur de toujours t'aimer.
J'espérais bien que ce serait le cas.
Ma peur, tes espoirs, comblés tous les deux.
Ender, c'est la stricte vérité.
Notre jeunesse ne nous rend pas impuissants. Lorsqu'on joue assez longtemps selon leurs règles, le jeu finit par nous appartenir. »
Elle gloussa. « Je fais partie d'une commission présidentielle. Peter en est malade.
On ne m'autorise pas à utiliser les réseaux. Il n'y a pas un seul ordinateur sur la propriété à part les machines domestiques en charge du système de sécurité et de l'éclairage. Rien de récent. Il date de plus d'un siècle, quand on fabriquait encore des ordinateurs qui n'étaient connectés à rien. Ils m'ont pris mon armée. Ils m'ont pris mon bureau. Et tu sais quoi? Ça m'est plus ou moins égal. »
« Tu ne dois pas t'ennuyer avec toi-même ?»«
Pas moi, mes souvenirs. »«
Peut-être que c'est ce qui nous définit, ce dont on se souvient. »«
Non, mes souvenirs d'étrangers, des Doryforts. »
Valentine eut un frisson, comme si une soudaine brise glacée l'avait taquinée.
« Je ne veux plus jamais voir de vidéos des Doryforts. Elles sont toujours pareilles. » Je les ai décortiqués pendant des heures. La manière dont leur vaisseau se déplace dans l'espace. Et un truc marrant qui ne m'est venu à l'esprit qu'ici, sur le lac. Je me suis rendu compte que toutes les batailles durant lesquelles les Doryforts et les hommes se sont battus au corps à corps dataient de la première invasion. Dans toutes les scènes tirées de la deuxième, quand nos soldats portent l'uniforme de la FI, les Doryforts sont toujours déjà morts. Étendus par terre, effondrés sur leur commande. Aucun signe de lutte ou de quoi que ce soit. Et la bataille de Mazer Hakam, on ne nous en montre jamais la moindre séquence.
Ils dissimulent peut-être une arme secrète?
Non, non. Peu importe la façon dont nous les avons tués. Ce sont les Doryforts eux-mêmes qui m'intéressent. J'ignore absolument tout d'eux. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, je suis censé les combattre. J'ai livré de nombreux combats dans ma vie. Il s'agissait parfois de jeux, parfois
Non. Et chaque fois, je l'ai emporté parce que j'arrivais à comprendre de quelle manière mon ennemi pensait. À partir de ce qu'il faisait, je pouvais deviner ce qu'il me croyait en train de faire, de quelle manière il voulait que la bataille évolue. Et je jouais là-dessus. C'est un de mes points forts. Comprendre les pensées des autres.
La malédiction des enfants Wiggin.
Elle plaisantait. Mais l'idée qu'Ender puisse la comprendre aussi complètement que ses ennemis la terrifiait. Peter n'avait aucun mal à la comprendre, ou du moins le croyait-il. Mais c'était un tel gouffre moral qu'elle ne s'était jamais sentie embarrassée face à lui, même quand il devinait ses pires pensées. Mais Ender, elle ne voulait pas qu'il la comprenne. Ça lui donnerait l'impression de se dénuder devant lui. Ça l'emplirait de honte.
« Tu ne penses pas pouvoir battre les Doriforts sans les connaître ?
Ça va plus loin que ça. Me retrouver seul ici sans rien à faire m'a forcé à m'interroger sur moi-même, à essayer de comprendre pourquoi je me déteste à ce point. Non, Ender. Ne me dis pas non, Ender. Ça m'a pris longtemps pour me le figurer, mais crois-moi, c'est la stricte vérité. Et en fin de compte, ça se résume à ça. Dès lors que je comprends vraiment mon ennemi, que je le comprends suffisamment bien pour le vaincre, je me mets alors aussitôt à l'aimer. Je ne crois pas qu'il soit possible d'appréhender totalement quelqu'un, ses désirs, ses convictions, sans l'aimer de la manière dont il s'aime lui-même. Et à ce moment-là, quand je commence à l'aimer, tu te débrouilles pour le battre.
Un instant durant, elle ne redouta plus sa perspicacité.
« Non, tu ne saisis pas. Je le détruis. Je me débrouille pour qu'il lui soit impossible de me faire à nouveau du mal. Je l'écrase jusqu'à ce qu'il cesse d'exister. »
« Bien sûr que non. »
Et la peur réapparut, plus forte que jamais.
« Peter s'est adouci, mais toi, ils t'ont transformé en tueur. Deux côtés de la même pièce. Mais comment les distinguer?
J'ai blessé des gens pour de vrai, Val. Je n'invente rien.
Je sais, Ender.
Comment vas-tu me blesser?
Tu comprends ce qui m'arrive, Val?
Souffla-t-il. Même toi, tu as peur de moi. Il lui toucha si tendrement la joue qu'elle dut se retenir de pleurer. Comme la caresse de sa main de bébé quand il n'était encore qu'un enfant. Elle s'en souvenait de cette main douce et innocente sur sa joue.
« Non, »
répliqua-t-elle, ce qui, en cet instant précis, était la stricte vérité.
« Tu devrais ?»«
Non, je ne devrais pas. »«
Ta peau va finir par se flétrir si tu restes dans l'eau, sans parler des attaques de requins. »
Il sourit. Ça fait longtemps que les requins ont appris à me laisser tranquille. Mais il se hissa néanmoins sur le radeau, qu'il recouvrit presque d'eau en l'enfonçant. Valentine en fut quitte pour un bain glacé dans le dos.
Ender, Peter va réussir. Il est assez intelligent pour prendre le temps nécessaire, mais il finira par gagner sa place au sommet. Si ce n'est pas tout de suite, ça viendra plus tard. Je n'arrive toujours pas à déterminer si c'est un bien ou un mal. Peter peut se montrer cruel, mais il sait comment obtenir et conserver le pouvoir. Et tout porte à croire qu'une fois la guerre contre les Doriforts finie, et peut-être même avant, le monde retombera dans le chaos. L'Empire russe était sur la voie de l'hégémonie avant la première invasion. S'il s'y remet ensuite, même Peter serait sans doute un meilleur choix. Tu as découvert que tu portais un destructeur en toi, Ender. Eh bien, moi aussi. Peter n'en avait pas le monopole, malgré tout ce qu'ont pu penser ceux qui nous ont testés. Mais il a aussi une part de bâtisseur en lui. Il n'est pas gentil, mais il a cessé de casser toutes les bonnes choses qui lui passent entre les mains. Une fois qu'on a compris que le pouvoir finissait toujours par échoir à ceux qui le désirent le plus, je crois qu'il pourrait tomber entre de pires mains que celles de Peter.
Avec une recommandation aussi fervente, même moi je pourrais voter pour lui.
Ça me paraît parfois tellement ridicule. Un gosse de 14 ans et sa petite sœur complotant pour dominer le monde.
Elle essaya de rire. Ce n'était pas drôle.
Nous ne sommes tout simplement pas des enfants ordinaires. Aucun de nous.
Ça ne t'arrive jamais de le regretter? Elle tenta de s'imaginer dans la peau d'une de ses camarades d'école. D'imaginer une vie où elle ne se sentirait pas responsable de l'avenir du monde.
Ça serait super ennuyeux?
Je ne crois pas. Et il s'étendit sur le radeau, comme s'il pouvait demeurer à jamais sur ce lac. C'était donc vrai. Quoi qu'il lui ait fait à l'école de guerre, ça l'avait sevré de toute ambition. Il ne voulait vraiment pas quitter les eaux ensoleillées de son bocal.
Non,
comprit-elle. Non. Il se persuade de vouloir rester ici, mais il y a encore trop de Peter en lui. Ou de moi. Aucun d'entre nous ne peut supporter longtemps de ne rien faire. À moins peut-être que nous ne puissions pas être heureux sans autre compagnie que nous-mêmes. Elle repartit donc à la charge.
Cite-moi le seul nom connu du monde entier.
Mazer Rackham.
Et si tu gagnais la guerre à venir, tout comme Mazer Rackham l'a fait en son temps?
Mazer Rackham était un coup de chance. Un réserviste, personne ne croyait en lui. Il s'est juste trouvé au bon endroit, au bon moment.
Mais suppose que tu y parviennes. Suppose que tu battes les Doryfors et que ta renommée finisse par égaler celle de Mazer Rackham.
Je laisse la célébrité aux autres. Peter veut être célèbre. Laissons-le sauver le monde.
Je ne parle pas de célébrité, Ender. Ni même de pouvoir. Je parle d'accident. Comme celui qui s'est produit quand Mazer Rackham s'est trouvé là-bas, quand il fallait quelqu'un pour arrêter les Doryfors. Si je suis ici, je ne me trouverai pas là-bas. Ce sera à quelqu'un d'autre.
Que ce soit donc à lui que l'accident arrive.
L'indifférence désenchantée qu'elle percevait dans sa voix la mit en colère. Je te parle de ma vie, espèce de petit connard égoïste.
Si ses paroles le troublèrent, il n'en montra rien. Il se contenta de rester couché, les yeux clos.
Quand tu étais petit et que Peter te torturait, heureusement que moi, je ne suis pas resté sans rien faire en attendant que papa et maman viennent te sauver. Ils n'ont jamais compris à quel point Peter était dangereux. Je savais que tu avais le moniteur, mais mieux valait quand même ne pas compter sur eux. Tu sais ce que Peter avait l'habitude de me faire sous prétexte que je l'empêchais de te faire du mal?
La ferme, murmura Ender. Parce qu'elle voyait sa poitrine trembler, parce qu'elle savait qu'elle l'avait vraiment blessé, que, tout comme Peter, elle avait trouvé son point faible et l'avait frappé juste là. Elle se tut.
« Je ne peux pas les battre, » lâcha Ender.
« Un jour, je me retrouverai là-bas, tout comme Mazer Rackham. Tout le monde dépendra de moi, et je serai incapable de le faire. »
« Si tu n'y arrives pas, Ender, c'est que personne ne le peut. Si tu échoues, c'était qu'ils méritaient de gagner, parce qu'ils sont plus forts, meilleurs que nous. » Ça ne sera pas ta faute.
Tu iras le dire aux morts.
Qui le fera à ta place?
N'importe qui.
Personne, Ender. Je vais te dire quelque chose. Ce ne sera pas ta faute si tu échoues en essayant. Mais si tu n'essaies pas et que nous perdons, alors tu seras entièrement responsable. Tu nous auras tous tués.
Je suis un tueur, de toute façon.
Et ça t'étonne? Les êtres humains n'ont pas développé leur cervelle pour traîner sur un lac. Tuer a été la première chose que nous ayons apprise. Et nous avons bien fait, car sans ça nous serions morts et les tigres régneraient sur terre. Je n'ai jamais pu battre Peter. Peu importe ce que je faisais ou disais, je n'y suis jamais arrivé.
Ainsi donc tout ramené à Peter.
Il était plus vieux que toi et plus fort. Les Doryfors aussi.
Elle parvenait à saisir son raisonnement, ou du moins son irrationalité. Il pouvait bien gagner tout ce qu'il voulait. Il savait au plus profond de son cœur que toujours, il y aurait quelqu'un capable de le détruire. que jamais ils ne l'emportaient complètement, parce qu'il y avait Peter, le champion invaincu.
« Tu veux battre Peter ?»
lui demanda-t-elle.
« Non. Bats les Doryforts. À ton retour, tu verras que plus personne ne prête encore la moindre attention à Peter Wiggin. Regarde-le dans les yeux quand le monde entier t'aimera et te vénérera. Ce sera la défaite que tu y liras, Ender. La voilà ta victoire.
Tu ne comprends pas.
Oh que si.
Je te dis que non. Je ne veux pas battre Peter.
Alors qu'est-ce que tu veux?
Je veux qu'il m'aime. Elle ne trouva rien à y répondre. Pour ce qu'elle en savait, Peter n'aimait personne. Ender n'ajouta rien. Il restait juste couché, sans bouger. En fin de compte, alors que les moustiques commençaient à leur tourner autour à l'approche du crépuscule, une Valentine couverte de sueur fit un ultime plongeon dans l'eau, puis entreprit de pousser le radeau jusqu'au rivage. Ender fit mine de n'avoir pas conscience de ce qu'elle était en train de faire, mais l'irrégularité de sa respiration lui indiqua qu'il ne dormait pas. Elle grimpa sur l'embarcadère une fois la rive atteinte.
« Moi, je t'aime, Ender. Plus que jamais. Quelle que soit ta décision. »
Il ne répondit pas. Valentine doutait qu'il l'ait cru. Elle repartit par la colline, furieuse contre ceux qui l'avaient fait venir auprès d'Ender dans ces conditions, parce qu'elle s'était comportée comme il l'attendait d'elle. Elle avait parlé à son frère pour le convaincre de reprendre sa formation, ce qu'il ne lui pardonnerait pas avant longtemps. Ender passa la porte encore mouillée de sa dernière baignade dans le lac. Il faisait sombre dehors, tout comme dans la pièce où Graf l'attendait.
« Est-ce qu'on part maintenant ?»
s'enquit Ender.
« Si tu veux, » répondit Graf.
« Quand ?»«
Quand tu seras prêt. »
Ender alla prendre une douche et s'habiller. Il avait fini par s'habituer à la façon dont les vêtements civils s'ajustaient, mais il se sentait toujours bizarre sans uniforme ou combinaison flash.
« Je n'en porterai plus jamais, » se dit-il. « C'était le jeu de l'école de guerre, et j'en ai terminé avec ça. »
Il entendit des criquets striduler furieusement dans les bois, puis, à proximité, le bruit caractéristique des pneus d'une voiture roulant lentement sur du gravier. Que devrait-il emporter d'autre? Il avait lu plusieurs livres de la bibliothèque, mais ils appartenaient à la maison. Ses possessions se résumaient au radeau qu'il avait construit de ses propres mains. Et ça aussi allait rester ici. Les lumières s'allumèrent dans la pièce où Graf l'attendait. Lui aussi avait remis son uniforme. Ils prirent place dans la voiture, qui emprunta des routes de campagne pour les conduire à l'aéroport par l'arrière.
« Malgré l'augmentation de la population, » fit Graf, « ils n'ont jamais touché aux forêts et aux fermes de cette zone. Terres inondables. Les pluies font grossir les rivières. Il y a beaucoup de cours d'eau souterrains dans le coin. Cette planète est profonde, vivante, Ender. Nous autres n'habitons que sa surface, comme les insectes qui arpentent l'écume des eaux calmes à proximité du rivage. »
Ender ne fit aucun commentaire.
« Nous entraînons nos commandants comme nous le faisons parce qu'il le faut. Ils doivent avoir une certaine disposition d'esprit, on ne peut pas laisser mille choses venir les distraire, ce qui nous contraint à les isoler. À t'isoler, toi. On te tient à l'écart du reste. Et ça fonctionne. Mais c'est si facile quand on ne rencontre jamais personne, quand on ne connaît pas vraiment la Terre. » Quand on vit derrière des parois métalliques qui nous protègent du froid de l'espace, c'est si facile d'oublier pourquoi la Terre mérite d'être sauvée. Pourquoi les gens sont peut-être dignes du prix que tu paies.
C'est donc pour ça que vous m'avez amené ici, se dit Ender. C'est pour ça que vous avez sacrifié 3 mois malgré l'urgence pour me faire aimer la Terre. Eh bien, ça a marché. Toutes vos ruses ont fonctionné, y compris Valentine. Elle faisait partie du plan, elle aussi, histoire de me rappeler que ce n'est pas pour moi que je vais à l'école.
« Peut-être me suis-je servi de Valentine, » poursuivit Graf,
Et peut-être me détestes-tu à cause de ça, Ender. Mais garde bien ceci en tête. Ça n'a fonctionné que parce que ce que vous partagez est réel. C'est la seule chose qui compte. C'est pour des milliards de ce genre de rapport humain que tu te bats. Pour qu'ils continuent d'exister. Ender tourna son visage vers la vitre pour regarder les allées et venues des hélicoptères et des dirigeables. Ils prirent un hélico pour se rendre au spatioport de la FI, à Stumpy Point. Son nom officiel était celui d'un hégémon décédé, mais tout le monde l'appelait Stumpy Point à cause de la misérable petite ville qui avait été sacrifiée pour construire les voies d'accès aux énormes îles de béton et d'acier qui parsemaient Pamlico Sound. Des oiseaux aquatiques continuaient d'arpenter tant bien que mal les eaux salées, là où des arbres moussus s'inclinaient comme pour boire. Une pluie légère se mit à tomber qui rendit le béton noir et glissant. On aurait su dire où il s'arrêtait pour laisser place au bras de mer. Graff le guida à travers tout un labyrinthe de contrôle. Son habilitation était une petite boule de plastique qu'il faisait choir dans des glissières pour ouvrir les portes. Des gens se levaient alors pour le saluer. Puis les glissières recrachaient la boule et Graff poursuivait son chemin. Ender remarqua que si tous avaient regardé le colonel dans un premier temps, les coups d'œil se concentraient de plus en plus sur lui à mesure qu'il s'enfonçait dans le spatioport. Ça avait d'abord été l'homme de pouvoir qui avait attiré leur attention, mais dès lors que tout le monde avait du pouvoir, c'était sa cargaison qui les intéressait. Ce n'est qu'au moment où Graff s'attacha dans le siège de navette voisin du sien qu'Ender comprit qu'il partait avec lui. « Jusqu'où ? » lui demanda le jeune Wiggin. « Jusqu'où allez-vous m'accompagner ?» Graff eut un faible sourire. « Jusqu'au bout, Ender. » « Il vous en nommait administrateur de l'école de commandement ?»« Non. » Ainsi donc, on avait muté Graff uniquement pour qu'il puisse accompagner Ender à son affectation suivante. « Comme je suis important, s'émerveilla-t-il. » Et tel un murmure de Peter dans son esprit, il entendit la question. Comment vais-je pouvoir m'en servir ? Dans un frisson, il essaya de penser à autre chose. Peter avait sans doute des fantasmes de domination du monde, mais Ender ne les partageait pas. Néanmoins, au souvenir de ce qu'il avait vécu à l'école de guerre, il prit conscience que, quand bien même il n'avait jamais recherché le pouvoir, il l'avait toujours eu. Mais, décida-t-il, ce pouvoir procédait de l'excellence, pas de la manipulation. Il n'avait aucune raison d'en avoir honte. Jamais, sauf peut-être dans le cas de Bean, il ne l'avait utilisé contre quelqu'un. Et les choses avaient fini par s'arranger avec Bean. Au bout du compte, il était devenu son ami, à la place d'Allée, qui lui-même avait pris celle de Valentine. Valentine qui aidait Peter à comploter. Valentine qui ne cessait de l'aimer, quoi qu'il arrive. Suivre ce cheminement de pensée le ramena sur terre, à ses heures tranquilles passées sur les eaux claires d'un lac entouré de collines boisées. « Voilà à quoi ressemble la Terre, » se dit-il. « Pas à un globe de milliers de kilomètres de circonférence, mais à une forêt, avec un lac scintillant, une maison dissimulée au sommet d'une colline, au milieu des arbres, une pente herbeuse qui part de l'eau, des poissons sauteurs et des oiseaux en vol plané, occupés à capturer les insectes qui vivent à la frontière de l'eau et du ciel. Le bruit incessant des criquets, des vents, des volatiles, et la voix d'une petite fille qui lui parlait depuis les tréfonds de son enfance. La voix qui le protégeait jadis de la terreur. Il ferait tout pour la garder en vie. Même retourner à l'école. Même quitter la terre pour 40 ou 4 000 années supplémentaires. Même si elle préférait Peter. Ses yeux étaient fermés, et il n'avait pas émis le moindre son en dehors de sa respiration. Graff tendit néanmoins le bras pour lui toucher la main. Ender se crispa sous l'effet de la surprise, et le colonel battit aussitôt en retraite. Mais, pendant un bref instant, le jeune garçon avait été frappé par l'impression troublante que Graff avait peut-être quelque affection pour lui. Mais non, ce n'était qu'un geste calculé de plus. Graff était en train de faire de ce gosse un commandant. Nul doute que le module 17 du processus de formation incluait une manifestation de tendresse de la part du professeur. La navette ne mit que quelques heures à atteindre le satellite LIP. Lancement interplanétaire était une ville de 3000 habitants qui respirait l'oxygène produit par les plantes qui servaient également à les nourrir, buvait une eau qui avait déjà parcouru le corps des milliers de fois, ne vivant là que pour réviser les remorqueurs qui se chargeaient de l'intégralité de la logistique à l'intérieur du système solaire, ainsi que les navettes qui transportaient marchandises et passagers sur la Terre ou la Lune. C'était un monde sur lequel, même brièvement, Ender se sentit comme chez lui. Les planchers se courbaient vers le haut, comme à l'école de guerre. Leur remorqueur était pratiquement neuf. La FI remplaçait constamment ses vieux véhicules par les modèles les plus récents. Il venait de décharger une énorme quantité d'acier traité par un vaisseau-usine qui démantelait de petites planètes dans la ceinture d'astéroïdes pour ensuite acheminer sa cargaison jusqu'à la Lune. Présentement, le remorqueur était relié à 14 barges. Mais Graf laissa tomber sa boule dans le lecteur, ce qui eut pour effet immédiat de les détacher du vaisseau. Celui-ci allait cette fois effectuer un trajet rapide, dont Graf ne spécifierait la destination qu'une fois qu'il se serait séparé du LIP. « C'est un secret de polichinelle, » fit le capitaine du remorqueur. « Chaque fois que la destination est inconnue, c'est pour un lys. » Par analogie avec le LIP, Ender présuma que ces lettres devaient signifier « lancement interstellaire ».« Pas cette fois, » dit Graf.
« Où ça alors ?»«
Quartier général de la FI. Je n'ai même pas le niveau d'accréditation pour savoir où il se trouve, colonel. »«
Votre vaisseau le sait, » fit Graf.
« Contentez-vous d'informer votre ordinateur de ceci et suivez la trajectoire qu'il déterminera. »
Il lui tendit la boule en plastique.
« Et je suis censé fermer les yeux durant l'intégralité du voyage pour ne pas comprendre où nous allons ?»«
Oh non, bien sûr que non. Le quartier général de la FI est situé sur l'astéroïde Eros, qui devrait se trouver à environ 3 mois d'ici à notre vitesse maximale. Vitesse que nous allons employer, bien entendu. »«
Eros ?
Mais je croyais que les Doriforts l'avaient transformé en désert radioactif.
Oh,
quand ai-je obtenu le niveau d'accréditation nécessaire pour savoir ça ?
Jamais.
Aussi, y serez-vous assigné de façon permanente lorsque nous serons arrivés. »
Le capitaine comprit aussitôt à son grand déplaisir.
« Je suis un pilote, espèce de fils de pute. Vous n'avez pas le droit de m'enfermer sur un rocher. »
« Je vais fermer les yeux sur les insultes dont vous venez de gratifier un officier de grade supérieur. » Je vous présente toutes mes excuses, mais j'avais pour ordre de prendre le remorqueur militaire le plus rapide que je puisse trouver à mon arrivée. Et c'est tombé sur le vôtre. Ce n'est pas comme si quiconque vous en voulait personnellement. Prenez les choses du bon côté. La guerre sera peut-être finie dans une quinzaine d'années, et la position du quartier général de la FI n'aura alors plus besoin d'être tenue secrète. À propos... Mieux vaut que vous sachiez, au cas où vous feriez partie de ces pilotes ne jurant que par l'appontage à vue, qu'Eros a été obscurci. Son albédo est à peine supérieur à celui d'un trou noir. Vous ne la verrez pas.
Merci, fit le capitaine,
qui mit un bon mois de voyage à parvenir à parler poliment au colonel Graf. L'ordinateur de bord avait une bibliothèque limitée, essentiellement consacrée aux loisirs, bien plus qu'à l'éducation. Aussi, Graf et Ender prirent-ils l'habitude de discuter après le petit déjeuner et les exercices matinaux. De l'école de commandement, de la Terre, d'astronomie, de physique, de tout ce qu'Ender voulait savoir. Et par-dessus tout, il voulait en apprendre davantage sur les Doriforts.
« Nous n'en savons pas grand-chose, » admit Graf. « Nous n'avons jamais fait un seul prisonnier vivant. Même lorsque nous en attrapions un, désarmé et vivant, il mourait au moment précis où sa capture ne faisait plus de doute. Même le « il » est sujet à caution. Le plus probable, en fait, reste que la plupart des soldats soient des femelles, avec des organes sexuels atrophiés ou résiduels. Impossible à dire. C'est un aperçu de leur psychologie qui te serait le plus utile, et nous n'avons pas vraiment eu d'occasion de les interroger.
Dites-moi tout ce que vous savez. Ça m'apprendra peut-être quelque chose dont j'ai besoin. »
Graff s'exécuta. Les Doryphores étaient des organismes qui auraient théoriquement pu prospérer sur Terre si l'évolution avait pris un autre chemin 1 milliard d'années plus tôt. Au niveau moléculaire, ils ne présentaient aucune surprise. Même le matériel génétique s'était révélé identique. Ce n'était pas par hasard s'ils évoquaient des insectes aux yeux des humains. Leurs organes étaient certes beaucoup plus complexes, spécialisés, et ils avaient développé un squelette interne en lieu et place de leur exosquelette originel, mais leur structure physique rappelait toujours leurs ancêtres, qui devaient avoir beaucoup ressemblé aux fourmis terrestres. « Mais ne te fie pas aux apparences, » ajouta Graff. « C'est à peu près aussi significatif que si je te disais que nos ancêtres devaient beaucoup ressembler à des écureuils. »
« Si c'est tout ce sur quoi nous pouvons nous appuyer, » fit Ender, « c'est déjà quelque chose. »
« Les écureuils n'ont jamais construit de vaisseaux spatiaux, » ironisa Graff. « Passer de la cueillette de noisettes et de graines à l'exploitation d'astéroïdes et à l'installation de centres de recherche permanents sur les lunes de Saturne suppose quelques changements en cours de route. »
Les Doryphores devaient probablement percevoir le même spectre lumineux que les humains, et ils disposaient d'un éclairage artificiel tant dans leurs vaisseaux que dans leurs installations au sol. Leurs antennes, par contre, semblaient presque résiduelles. Rien dans leur corps ne laissait supposer que l'odorat, le goût et l'ouïe soient particulièrement importants pour eux.
Et évidemment, nous ne pouvons en avoir la certitude. Mais nous n'avons rien trouvé qui puisse suggérer l'utilisation du son comme moyen de communication. Le plus étrange reste que leur vaisseau n'embarquait pas un seul appareil de transmission. Pas de radio. Rien qui puisse émettre ou recevoir le moindre signal.
Leur vaisseau communique? J'ai vu les vidéos. Ils se parlent entre eux.
Exact. Mais d'esprit à esprit. C'est la chose la plus importante que nous ayons découverte à leur propos. Quelle que soit la manière dont ils procèdent, ils maîtrisent la communication instantanée. Comme s'ils faisaient fi de la vitesse de la lumière. Quand Mazer Rakam a vaincu leur flotte d'invasion, ils ont tous fermé boutique, d'un coup, sans même avoir le temps d'envoyer un quelconque signal. Tout s'est simplement arrêté.
Ender se rappelait les vidéos des Doryphores indemnes, morts à leur poste.
Nous avons compris alors qu'il était possible de communiquer plus vite que la lumière. Ça remonte à 70 ans, et dès que nous avons su que c'était faisable, nous l'avons fait. Pas moi, bien sûr. Je n'étais pas encore né à l'époque.
Comment est-ce possible?
Je serais bien incapable de t'expliquer la physique philotique. Personne n'en comprend la moitié, de toute façon. L'important, c'est que nous avons construit l'Ancible. Son nom officiel est communicateur instantané à parallaxe philotique. Mais quelqu'un a exhumé le terme Ancible d'un vieux bouquin, et le mot est resté. Quand bien même la plupart des gens ignorent jusqu'à l'existence de cette machine.
Ça permet donc à des vaisseaux de communiquer d'un bout à l'autre du système solaire? S'enquit Ender.
Ça permet à des vaisseaux de communiquer d'un bout à l'autre de la galaxie. Et les Doryphores n'ont pas besoin de machines pour le faire.
Donc, ils ont été avertis de leur défaite au moment même où elle se produisait. J'ai toujours pensé... Tout le monde croit qu'ils viennent sans doute à peine de découvrir leur défaite d'il y a 25 ans.
Ça prévient toute panique, fit Graff. Je suis en train de te dévoiler des choses que tu n'as pas le droit de savoir à propos. Si tu avais dans l'idée de quitter le quartier général de la FI avant la fin de la guerre.
Ender était en colère à présent. Si vous me connaissez un tant soit peu, vous savez que je peux garder un secret.
C'est le règlement. Les gens de moins de 25 ans sont considérés comme une population à risque. C'est très injuste à l'égard de nombre d'enfants responsables, mais ça permet de limiter le nombre de personnes susceptibles de laisser échapper quelque chose.
Quel intérêt de garder tout ça secret, de toute façon?
Nous avons pris des risques terribles, Ender. Et nous n'avons aucune envie de voir chaque réseau terrestre commencer à critiquer après coup ces décisions. Vois-tu? Dès que nous avons eu un Ancible opérationnel, Nous l'avons installé à bord de nos meilleurs vaisseaux spatiaux avant de les lancer à l'assaut des systèmes d'origine des Doriforts.
Est-ce qu'on sait où il se trouve ?
Oui. Nous n'attendons donc pas la troisième invasion. Nous sommes la troisième invasion. Nous sommes en train de les attaquer. C'est top secret.
Tout le monde pense que nous avons une gigantesque flotte de vaisseaux de guerre en attente dans la barrière de comètes.
Pas un seul. Nous sommes totalement sans défense ici.
Et s'ils ont envoyé une flotte nous attaquer ?
Alors nous sommes morts. Mais nos vaisseaux n'ont pas vu le moindre signe d'une telle flotte.
Peut-être ont-ils décidé de nous laisser tranquilles ?
Peut-être. Tu as vu les vidéos. Est-ce que tu jouerais le destin de l'espèce humaine là-dessus ?
Ender essaya de prendre la mesure du temps qui s'était écoulé.
Et les vaisseaux voyagent depuis 70 ans ?
Certains d'entre eux. D'autres depuis 40 ans. Et d'autres encore depuis 20. Nous construisons de meilleurs vaisseaux à présent. Nous avons appris à tirer un peu mieux parti de l'espace. Mais tous les vaisseaux spatiaux déjà construits sont en route pour leur planète ou leur avant-poste. Le moindre de nos vaisseaux, le ventre rempli de croiseurs et de chasseurs, se trouve actuellement en approche de l'ennemi, en train de décélérer, parce qu'ils sont presque arrivés. Nous avons envoyé les premiers d'entre eux sur les objectifs les plus éloignés, les moins anciens sur les plus proches. Notre timing n'était pas mauvais. Ils vont tous arriver en zone de combat à quelques mois d'intervalle. Malheureusement, ce sera notre équipement le plus primitif qui va attaquer leur planète d'origine. Non pas qu'ils soient complètement dépassés. Nous avons des armes dont les Doriforts ignorent tout.
Quand arriveront-ils ?
D'ici à 5 ans, Ender. Tout est prêt au QG de l'AFI. L'encible principale s'y trouve, en contact avec toute notre flotte d'invasion. Chaque vaisseau est en ordre de marche, prêt au combat. La seule chose qui nous manque, Ender, c'est celui qui les commandera. Quelqu'un qui sache quoi foutre de toutes ces armes quand elles auront atteint leur but.
Et si personne ne sait quoi en faire ?
Eh bien, nous ferons de notre mieux, avec le meilleur commandant que nous aurons trouvé.
Moi, se dit Ender. Ils veulent que je sois prêt dans 5 ans. Colonel Graff, je ne vois pas comment je pourrais être prêt à temps.
Graff haussa les épaules. Bon, fais de ton mieux. Si tu n'es pas prêt, nous nous débrouillerons avec ce que nous aurons, ce qui rasséréna Ender. Mais à peine quelques instants. Bien sûr, Ender, nous n'avons personne d'autre pour le moment.
Ender savait qu'il s'agissait d'un autre des petits jeux de Graff.
Me faire croire que tout repose sur mes épaules, pour que je ne puisse pas me relâcher, que j'exige le maximum de moi.
Jeu ou pas, cependant, ça pouvait être vrai. Il allait donc devoir travailler aussi dur que possible. C'était ce que Val attendait de lui.
5 ans. Juste 5 ans avant l'arrivée de la flotte. Et j'ignore encore presque tout. Je n'aurai que 15 ans à ce moment-là.
Pas loin de 16, fit Graff. Tout dépendra de ce que tu auras appris.
Colonel Graff, j'ai juste envie de retourner nager dans le lac.
Quand nous aurons gagné la guerre, Ender. Ou quand nous l'aurons perdue. On aura quelques décennies devant nous avant qu'ils ne reviennent en finir avec nous. La maison t'attendra. Je te promets que tu pourras aller y nager tout ton content.
Mais je serai toujours trop jeune pour obtenir une accréditation.
On te gardera constamment sous surveillance armée. Les militaires savent gérer ce genre de choses.
Tous deux éclatèrent de rire. Ender dut se rappeler que Graff faisait juste semblant d'être son ami, que tout ce qu'il disait n'était que mensonge ou tricherie destinée à le transformer en une machine de combat efficace.
« Je vais devenir l'exact outil que vous voulez », lui lança Ender en son fort intérieur. « Mais au moins, je ne serai pas dupe. Je le ferai parce que je l'aurai choisi, pas parce que vous m'aurez trompé, espèce de salaud sournois. »
Le remorqueur atteignit Eros avant qu'il ne puisse voir l'astéroïde. Le capitaine leur montra le scan visuel, auquel il superposa ensuite celui du détecteur de chaleur. Il se trouvait pratiquement dessus.
à peine à 4000 kilomètres. Mais Eros, d'une longueur ne dépassant pas les 24 kilomètres, demeurait invisible quand il ne réfléchissait pas la lumière du soleil. Le capitaine amarra le vaisseau à l'une des trois plateformes qui entouraient Eros. Conçu pour tirer des cargaisons, il ne pouvait se poser directement, car il n'aurait pu échapper au puits gravitationnel de l'astéroïde qui disposait d'une pesanteur augmentée. L'homme leur lança un au revoir irrité, mais Ender et Graff ne se départirent pas de leur bonne humeur. Si lui pestait à l'idée de devoir se séparer de son remorqueur, tous deux se sentaient quant à eux dans la peau de détenus enfin libérés sur parole. En embarquant dans la navette qui allait les emmener sur Eros, ils ne cessaient de répéter des citations détournées des vidéos que le capitaine avait regardées tout au long du voyage, ce qui les faisait rire comme des fous. Vexés, leur cible battit en retraite en feignant de s'endormir. Puis, presque comme si ça lui venait après coup, Ender posa une ultime question à Graff. « Pourquoi combattons-nous les Doriforts ?»«
J'ai entendu toutes sortes de raisons, » fit Graff.
« Parce que la surpopulation de leur système les contraint à coloniser d'autres mondes. Parce qu'ils ne supportent pas l'idée qu'il puisse exister d'autres formes de vie intelligentes dans l'univers. Parce qu'ils ne nous considèrent pas comme une forme de vie intelligente. Parce qu'ils ont quelques religions bizarres. Parce qu'ils ont capté nos anciennes émissions vidéo et nous ont jugés effroyablement violents. Toutes sortes de raisons. »
Et qu'est-ce que vous croyez, vous ?
Ce que je crois n'a aucune importance.
Je veux quand même savoir.
Ils doivent se parler directement, Ender, d'esprit à esprit. Ce que l'un pense, un autre peut également le penser, et ils partagent leurs souvenirs. Qu'est-ce qui aurait bien pu les pousser à élaborer un langage dans ces conditions ? À apprendre à lire et à écrire ? Comment saurait-il en quoi consiste la lecture et l'écriture, s'ils y étaient confrontés, ou les signaux, ou les nombres, ou quoi que nous utilisions pour communiquer? Ce n'est pas juste une affaire de traduction d'une langue dans une autre. Ils n'ont pas de langage. Nous avons essayé tout ce à quoi nous avons pu penser pour communiquer avec eux, mais ils n'ont pas de machine pour savoir que nous cherchons à entrer en contact avec eux. Et peut-être ont-ils essayé de nous envoyer des pensées, et qu'ils ne comprennent pas pourquoi nous ne répondons pas.
Donc, toute cette guerre est due au fait que nous ne pouvons pas communiquer?
Si un type ne peut pas te raconter son histoire, tu n'auras jamais la certitude qu'il ne cherche pas à te tuer.
Et si nous nous contentions de les laisser tranquilles?
Nous n'avons pas commencé, Ender. Ils sont venus à nous. S'ils avaient voulu nous laisser tranquilles, ils auraient pu le faire il y a un siècle, avant la première invasion.
Peut-être ne savaient-ils pas que nous étions une forme de vie intelligente, peut-être Ender.
Crois-moi, ça fait plus d'un siècle que cette question alimente les débats. Personne ne connaît la réponse. Au fond, cependant, il n'y a qu'une seule décision possible. Si l'un d'entre nous doit être détruit, faisons tout pour nous assurer que nous serons les survivants à la fin. Nos gènes ne nous laisseront de toute façon pas agir autrement. La nature ne laisse jamais évoluer une espèce qui n'a pas de volonté de survivre. On peut toujours élever des gens dans l'idée d'un sacrifice individuel, mais prise dans sa globalité, une race ne prendra jamais la décision de cesser d'exister. De sorte que, si nous n'arrivons pas à tuer les Doriforts jusqu'au dernier, ce sont eux qui le feront.
À titre personnel, observa Ender, je suis favorable à la survie.
Je sais, dit Graff. C'est pour ça que tu te trouves ici.